Bonjour, c'est l'émission Il était une fois, l'émission sur le conte que vous connaissez bien maintenant. Et rappelez-vous, le conte, ça n'est pas que pour les enfants.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a
C'est Chloé Gabrielli, la conteuse. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à partir avec moi dans les mondes imaginaires des contes et des histoires? Quand je dirai « Il était une fois », vous saurez que tout est possible, les arbres et les animaux parlent, les trésors et les bassesses humaines flirtent avec les êtres enchantés, quel que soit le pays où se déroule mon histoire. Et aujourd'hui, nous partons au Maroc. Il était une fois un homme qui avait deux fils. Il vivait dans un coin verdoyant de la vallée, non loin de l'Oued. Un jour, cet homme, usé par les durs travaux de la terre, sentit que sa mort était proche. Aussi pria-t-il ses fils de se hâter de prendre épouse. Après avoir fait leur choix, les garçons amenèrent deux filles de la vallée qu'il accepta volontiers pour bru, car elles paraissaient honnêtes et fortes. On célébra en même temps la cérémonie des deux mariages, et le père mourut exactement à l'issue de cette fête, lorsque cessa la musique des ganbris et des bandirs. Les jours suivants, l'héritage du défunt fut partagé et les terres distribuées entre les deux fils équitablement. Alors les jeunes gens se mirent au travail. Chacun construisit sa propre maison et s'occupa activement de sa petite parcelle de vallée. Mais un jour, le plus jeune des deux frères, qui s'appelait Badr, perdit tout courage. Bien que les terrains qui leur avaient été dévolus et leur exposition au soleil soient les mêmes, lui, Badr, il ne parvenait pas à comprendre pourquoi il s'était appauvri durant tout ce temps, alors que son frère s'enrichissait au-delà de toute prévision. Chaque matin, quand Badr se réveillait et qu'il allait regarder ses terres, il les comparait à des champs de bataille, tant elles étaient bouleversées, arides et desséchées. Pourtant, il avait su nourrir ses terres et les irriguer, et puis semer et planter et chasser les bêtes qui trouvaient leur subsistance parmi les graines et les jeunes pousses. Bref, il n'avait pas plus failli à sa tâche que son frère aîné. Badr supposa qu'un mauvais sort lui était jeté la nuit, malgré tout ce qu'il avait accompli durant la journée. Pour mieux s'en persuader, il retourna contempler les terres de son frère qui ne lui avait jamais paru plus belle. Et comment aurait-il pu en être autrement, alors que l'abondance de blé dorait les champs, que la profusion des pommes rougissait les vergers? Parfois, il lui était arrivé d'apercevoir dans ce paradis la silhouette d'un homme, qui pouvait être un gardien ou un jardinier, en tout cas un homme qu'il ne connaissait pas et qu'il n'avait jamais rencontré ailleurs dans la vallée. Cet homme faisait le tour des terres de son frère comme si elles lui appartenaient. Un jour, alors que l'homme marchait dans sa direction, Badr l'appela et ils se rencontrèrent sur les pierres que l'on avait disposées pour traverser l'Oued. « Qui es-tu? Que fais-tu là ?»« Je suis la chance de ton frère, et je garde ses champs, et je les protège contre le mauvais sort, en m'en occupant tel un homme. » Badr s'étonna. « Et pourquoi suis-je privé de chance de mon côté de l'Oued, tandis que mon frère en est généreusement pourvu ?» L'homme haussa les épaules. « Chaque homme a sa part de chance, à un moment donné de la vie. La tienne ?» Tu l'as laissé s'échapper par la maladresse de ta femme, et elle gît à présent au fond d'un trou, en haut de la montagne.
Mais je n'ai jamais entendu parler de cette chance.
Elle était venue à toi sous la forme d'un chien, que ta femme a chassé à coups de bâton. Le chien s'est enfui, et il est tombé dans ce trou. Badr s'avança de quelques pierres et posa la main sur le bras de l'homme.
Je ne savais pas. Aussi, je te prie maintenant de m'aider. Dis-moi comment aller chercher ce chien.
L'homme accepta. Et Badr,
qui n'était pas responsable du geste de sa femme, reçut tous les conseils de l'homme. Il s'agenouilla près de Badr, il traça le plan de la route à suivre sur le limon rouge qui bordait l'oued. Du plus loin qu'il te sentira, le chien qui doit te porter chance lancera des appels. Ses aboiements te guideront à la cavité dans laquelle il t'attend. Le lendemain à l'aube, Badr partit pour la montagne, le plan de sa route inscrit dans sa mémoire. Il marcha, jusqu'à ce qu'il parvint à des rochers en dents de scie, survolés par des vautours et d'autres oiseaux de proie. Des jappements répercutés par mille échos s'élevèrent de tous côtés, puis les échos se turent, pour ne laisser subsister que l'appel de l'animal. Ainsi, Badr découvrit l'endroit où l'attendait sa propre chance, un chien dont les poils étaient d'or sur le dos et d'argent sous la poitrine. Badr se baissa, et le chien sauta sur ses épaules. Ils partirent ensemble, droit devant eux, abandonnant une femme sans raisonnement, une maison sans joie et des terres qui symbolisaient toute l'inutilité d'un travail acharné quand il était privé de chance. Badr marcha pendant longtemps, demandant l'hospitalité à ceux qu'il rencontrait, se nourrissant de leur nourriture, buvant l'eau de leur puits et donnant en échange un peu de travail de ses mains de fella. Les jours et les nuits s'écoulèrent de cette façon. Quand un matin, Badr arriva aux portes d'une ville qu'il découvrit avec émerveillement, puisque lui ne connaissait que des villages. Il alla voir de près le plus beau bâtiment qui se trouvait être le palais du sultan. Mais quand il voulut y pénétrer, un garde l'en empêcha, lui faisant observer qu'il ne pouvait décemment y entrer avec un chien. « Mais, s'écria Badr, je demande l'hospitalité au sultan en tant que voyageur étranger à cette ville. Il ne peut pas me la refuser. »« Il te l'accordera, répondit le garde. Et seulement, je ne l'accepterai que si cette hospitalité est accordée également à mon chien. » Le garde courut aussitôt relater ces mots au sultan. Il s'exclama « Il impose son garde à son monarque !» Mais curieux de rencontrer un homme qui vouait une amitié aussi singulière à un chien, le sultan s'empressa d'accorder la double hospitalité. Bien plus, il ordonna que le voyageur soit reçu comme un hôte de marque et que le chien fût soigné au même titre que son maître. La nuit venue, le généreux sultan réclama la présence de Badr à ses côtés. « Je ne peux trouver le sommeil avant d'avoir entendu parler les poètes ou les voyageurs, lui dit-il. De toi, j'attends le récit de ton voyage et la raison qui t'a poussé à l'entreprendre. » Alors Badr raconta ses aventures, depuis que son père l'adjura de prendre femme, jusqu'à la nuit où il narra cette histoire à un sultan insomniaque. Pour terminer, il lui confia son bonheur de vivre avec un chien qui lui avait appris la sagesse. Cependant, malgré le récit du voyageur, le sultan ne put trouver le repos. Il s'agita au milieu de ses coussins, poussa de profonds soupirs et finalement s'étendit devant la couche de son invité sur une simple natte. De cette façon, il ne pourra faire autrement que de me bousculer et de me réveiller s'il a l'intention de continuer son chemin à l'aube en m'abandonnant parmi ses souvenirs. Et c'est ce qui se passa. Badr heurta le sultan du bout du pied et le chien jappa, comme s'il poussait un cri de joie. « Si tu as accepté l'amitié d'un chien, ne peux-tu également accepter l'amitié d'un sultan ?» dit le monarque en se dressant sur son séant. Et parce que le jeune homme hésitait, le sultan sortit des cadeaux somptueux de ses coffres, proposa la moitié de son palais, puis de son royaume. Et enfin, il lui décrivit la beauté de sa fille. Ému de l'intérêt que lui portait le sultan, Badr le questionna. « Mais que veux-tu de moi? Ta chance ne te suffit-elle pas? Pourtant tu possèdes une ville où tout est brillant. Considère ton palais et tes vêtements et les objets qui t'entourent. » Alors, le sultan lui confia que derrière la façade du bien-être se cachait la ruine imminente de son pays. Une bande de voleurs pille le trésor royal depuis de nombreuses années. Et comme il ne me reste pas un rial, Il m'enlève à présent mes coffres et mes tapis, mes bijoux et mes livres précieux. Qui voudrait encore se charger d'un tel royaume, qui ne brille que lorsque le soleil lui prête l'un de ses rayons ? Badr, qui se devait de remercier le sultan pour son hospitalité, promit de soumettre sa chance à l'épreuve. Inspiré par son chien aux poils d'or et d'argent, il assura le sultan que la bande de voleurs cesserait ses méfaits dans un délai de 7 jours et 7 nuits. Pour cela, lui dit-il, dresse-moi une tente hors de la ville et réserve-moi 7 moutons. Tu me feras apporter l'un de ces moutons chaque matin afin que je l'égorge et qu'il nous serve de nourriture à moi et à mon chien. Le sultan ordonna et tout le palais fut en effervescence. On dressa une tente splendide à l'extérieur des remparts et dès le lever du soleil, le premier mouton fut amené pour être égorgé. Or, un serviteur félon avait assisté à chacun des entretiens du sultan et de son hôte. Et cette même nuit, il avait couru rapporter leurs paroles aux 7 voleurs qui se cachaient dans la montagne. L'un des 7 fut désigné pour surveiller les agissements de Badr. Cet homme arriva aux abords de sa tente au moment où Badr venait d'égorger le premier mouton et s'écriait de l'intérieur « C'en est fait du premier des 7 !» Le premier voleur prit ses jambes à son cou et ne s'arrêta qu'une fois parvenu à la grotte qui servait de repère à la bande. « Je suis perdu !» se lamenta-t-il en se cachant la face contre terre. « Cet étranger est visiblement un sorcier, ainsi qu'on l'a dit pour son chien. Car si mes ruses l'empêchent de me voir, il a deviné ma présence et me l'a fait comprendre en s'exclamant que c'en était fait de moi. » Un deuxième voleur fut désigné pour aller au renseignement le matin suivant. Mais tandis qu'il approchait et collait l'oreille contre la laine de la tente, Badr, reposant le couteau qui venait d'immoler le deuxième mouton, s'écriait « Et maintenant, c'en est fait du deuxième des 7 !»« Oui, cet homme est bien un sorcier !» murmura le deuxième voleur en s'enfuyant. Il s'empressa de raconter ce qu'il avait entendu au reste de la bande. Alors un troisième voleur se porta volontaire pour descendre le matin suivant, puis un quatrième et un cinquième, et à chaque fois se répétaient les mêmes paroles et se renouvelaient les mêmes frayeurs, jusqu'au sixième des 7 voleurs. Ce matin-là, le sultan en personne mena le sixième mouton afin de rappeler à Badr que le 7e jour se trouvait être le lendemain. Badr caressa son chien, persuadé que la chance l'accompagnerait jusqu'au bout de son aventure. Après le départ du sultan, il égorgea donc le 6e mouton, et pendant que le 6e voleur venait écouter à son tour, il s'écria « C'en est fait du 6e, il n'en reste plus qu'un !» Comme pour appuyer ses propos, le chien aboya fort méchamment, ce qui fit dire au 6e voleur revenu au repère qu'il s'agissait bien de 2 sorciers contre lesquels les ruses des meilleurs brigands de l'Atlas ne pourraient jamais rien. Alors il adjura le chef de la bande de sauver ses hommes s'il ne voulait pas être abandonné de tous. Le chef des voleurs, qui n'était pas descendu dans la plaine depuis la dernière rapine au palais du sultan, décida de se rendre auprès de Badr et de traiter avec lui. Le lendemain, peu avant l'aube, il entrait sous la tente en se tenant à bonne distance du chien et de son maître, en se présentant comme le 7e voleur et chef de bande, et il demanda à Badr d'accepter sa reddition. « Ta magie est trop puissante pour que nous puissions lutter contre toi. Néanmoins, la haine ne me paraissant pas habiter ton regard, ni celui de ton chien, je te propose de te rendre tout ce que nous avons volé dans la salle du trésor, si tu me jures que notre tête restera à sa place sur nos épaules. » Bien sûr, Badr jura, en espérant qu'il ne serait pas seul à pardonner. Il se rendit au palais, accompagné du chef des voleurs, et du plus loin qu'il les aperçut, le sultan accourut entouré de ses gardes. « Je vois bien un voleur, s'étonna-t-il. » Mais ils étaient 7 à dévaliser le palais pour enrichir une caverne dans la montagne. Voici le chef qui s'est placé sous ma protection, dit Badr. Les autres viendront se rendre à leur tour en te rapportant tout ce qu'ils t'ont volé, mais à condition que tu ne touches pas à leur tête. Avide de retrouver ses biens et de rétablir l'équilibre du royaume, le monarque accepta ce que lui proposait Badr. « Que mes gardes les emmènent aux frontières de la terre, afin qu'ils ne sévissent plus dans mon pays, ordonna-t-il. » Badr fit remarquer que ses hommes s'étant placés sous sa protection, bénéficiaient également de sa chance. « Aussi, je te conseille de les garder auprès de toi et de te servir de leur connaissance de la montagne pour combattre ceux qui volent les besaces des voyageurs. »« J'écoute et je m'instruis, » répondit le sultan. Quand les 7 voleurs eurent rapporté les tapis somptueux et les livres précieux, ainsi que les coffres remplis de pièces d'or et de bijoux, le sultan, à la limite de l'allégresse, courut chercher sa fille, qu'il offrit en mariage à Badr. Et bien plus, il lui proposa le trône à sa mort, puisqu'il n'avait pas d'héritier mâle. Mais Badr préféra repartir vers d'autres aventures, accompagné de son chien, porteur de chance.
Somewhere over the rainbow.
Un homme qui n'avait pas réglé son loyer depuis longtemps se rendait au souk en rasant les murs, de peur de rencontrer son propriétaire. Soudain, quelqu'un lui frappa l'épaule. « La paix sur toi, et que cette journée te soit favorable !» s'écria celui qui l'avait interpellé. En se retournant, l'homme reconnut son propriétaire. « Justement, j'y songeais en me promenant, et je peux t'assurer que tu auras ton argent demain, » répondit le locataire. Puis il courut s'enfermer chez lui, car lorsqu'on fait une rencontre fâcheuse dès le matin, la journée entière sera désastreuse. Étonné, son épouse lui demanda pourquoi il rentrait si tôt. « Parce que je n'ai pas les moyens de payer le retard de notre location. » Alors la femme répliqua, « Qu'il soit vert ou qu'il soit rouge, que m'importe, pourvu que j'aie un caftan neuf. » La fille qui rentrait du hammam interrogea sa mère sur leur conversation. « Ton père m'a demandé la couleur que je préférais pour un caftan qu'il désire m'offrir, et je lui ai répondu que la couleur m'était égale, pourvu qu'il soit neuf. » À ces mots, la fille s'écria « Oh, qu'il soit jeune ou vieux, que m'importe, pourvu qu'il me traite bien !» Puis elle courut retrouver la domestique afin de lui raconter ce qui venait de se passer. « Ma mère veut me marier et elle me demande si je préfère un époux jeune ou un vieil époux. Bon, » J'ai répliqué que ça m'était égal, la seule condition était qu'il me traite bien. Alors la domestique se dirigea vers son feu en maugréant. « Peu m'importe que ce soit du bœuf ou du mouton, tout ce que je veux, c'est que l'on me l'apporte vite, sinon le déjeuner ne sera pas prêt à temps. » Et voilà quels furent les discours de cette maison, un vrai dialogue de sourds. Voilà, c'est déjà fini, il est temps de revenir sur terre au présent avec ses plaisirs et ses tourments. N'oubliez pas d'adhérer à cette radio que vous écoutez et que vous aimez. La radio a besoin de vous, c'est important. Vous allez sur www.fréquence7.net et c'est fait en quelques clics. Merci beaucoup Sylvain à la technique. On se retrouve les mercredis et les samedis à 16h et vous le savez maintenant. En attendant, racontez-vous des histoires.